Salut à tous et bienvenue dans cette tribune de la presse. Nous analyserons les faits marquants de la semaine qui s'achève. Les groupes armés à l'est du pays appelés à déposer les armes demandent du Conseil de sécurité des Nations Unies exprimé lundi dernier. Les Nations Unies n'encouragent pas une confrontation militaire pour résoudre ce problème. Enquête sur les casques bleus de la MONUC piqués dans le trafic d'or en échange d'armes ou d'informations. Human Rights Watch a réagi cette semaine. Dans une lettre donc adressée à l'ONU, l'ONG internationale de défense des droits de l'homme estime que cette enquête doit être le début et non la fin. Elle trouve même l'enquête superficielle. Autre fait marquant de la semaine, c'est ce procès contre le gouverneur de Kinshasa, le gouverneur qui dit construction anarchique et qui démolit, les victimes qui crient destruction illégale. Eh bien, les deux parties sont devant les tribunaux depuis mercredi dernier. Nous reviendrons donc sur tous ces faits avec nos confrères de la presse, Emmanuel Makila du journal Le Révélateur, Adrien Vanda, journaliste à la RCGA, en ligne de Chikapa, Saint-Pierre Kambibi de la Radio Zénith, et depuis le Togo, Fabi Kwasu, correspondante de BBC à Lomé, elle est de la radio Nostalgie. Bienvenue donc à tous et particulièrement à Fabi Kwasu qui participe à cette tribune pour la première fois. Nous le disons, le Conseil de sécurité des Nations Unies exige que les groupes armés présents dans l'est de la RDC déposent les armes. Il s'agit des groupes armés congolais et étrangers. Cette déclaration a été lue lundi à New York par l'ambassadeur chinois Wang Guangjia qui préside ce conseil ce mois-ci. Les 15 membres du Conseil de sécurité se disent profondément préoccupés par la détérioration de la situation à l'est de la RDC. Jocelyne Moussa Oukonde.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'inquiète tout particulièrement de graves conséquences humanitaires des actions violentes des groupes armés étrangers, notamment les FDLR et les activités militaires des brigades mixtes. Il lance un appel à toutes les parties engagées à s'abstenir de toute action conduisant à une confrontation militaire qui pourrait entraîner d'autres tensions et aggraver la crise humanitaire qui sévit dans le Nord et le Sud Kivu. Le Conseil de sécurité invite le gouvernement à mettre au point, en collaboration étroite avec la MONUC, un plan global pour garantir la sécurité dans l'est du pays, notamment en accomplissant de nouveaux progrès dans le désarmement, la démobilisation et la réintégration des combattants congolais, et les désarmements, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réintégration des combattants étrangers, ainsi qu'en mettant fin à l'impunité, en promouvant la réconciliation, la cohésion sociale, le relèvement et le développement dans la région.
Voilà, le Conseil de sécurité des Nations Unies qui appelle donc les groupes armés à déposer les armes. Emmanuel, j'imagine que cette actualité ne vous a pas échappé.
Non, pas du tout, parce que moi, je peux me vanter de dire que je suis un spécialiste de l'Est, parce que j'ai écrit beaucoup de papiers sur l'Est. Avant, quand j'ai lu le message du secrétaire général des Nations Unies, ainsi que celui du président du Conseil de sécurité des Nations Unies, je pensais que c'était un message alarmiste. Mais par après, en faisant l'introspection, j'ai trouvé que c'était vraiment nécessaire parce qu'à un certain moment, la situation est vraiment tendue. Lors du point de presse de la MONUC, dernièrement, j'ai voulu savoir pourquoi il y avait ces deux messages. Le porte-parole de la MONUC a expliqué qu'effectivement, il fallait vraiment qu'on tire la sonnette d'alarme, non pas pour un fait spécial, mais pour l'ensemble des faits qui s'accumulent et qui risquent d'exploser un jour. Il suffit d'un petit étincelle de rien du tout pour que tout explose. Or, vous avez suivi l'actualité de la semaine, il y a toujours des morts, et il y a même des morts dont on ne connaît pas les auteurs.
Particulièrement au Jura cette semaine.
Oui, cette semaine, il y a eu 5, on a découvert, la MONUC a découvert 5 corps sans vie. Alors, on ne connaît pas qui a tué ces personnes. Alors, ces dangers et les frustrations qui s'en suivent, l'accumulation de toutes ces tensions risquent d'exploser un jour. C'est pour cela que j'ai compris que le message du Conseil de sécurité des Nations Unies était vraiment très important en direction d'abord du gouvernement qui est responsable numéro un de la sécurité des Congolais. Et ensuite, d'abord pour parler du gouvernement, c'est pas comme une accusation. On est en train de tirer la sonnette d'alarme pour réveiller tout le monde afin qu'on puisse tirer les plans en sorte que qu'on puisse sortir de cette situation.
Et on va revenir à vous, Emmanuel Makila. Soutien Pierre Cambidi, vous êtes donc de la Radio Zénith, vous nous suivez depuis Chicapa. Ce n'est quand même pas un premier appel du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que les groupes armés déposent les armes.
Justement, lorsque j'ai suivi Emmanuel dire sa présentation autour de la réponse qu'il avait été donnée par le porte-parole de la Monique lors du point de presse hebdomadaire, on lui dit que finalement c'est une des cœurs, certainement en plein effet. Vous avez suivi qu'il y avait, on avait déjà entendu le processus de l'Islam qui a été condamné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. On a vu Jean-Marie Guénon dire tout haut. La délégation du Conseil de sécurité est venue à Kinshasa. On a dit qu'elle était opposée au missile, qu'il fallait le brassage. Pourtant, il y a des groupes armés qui sont réfractaires au brassage. Aujourd'hui, que le Conseil de sécurité des Nations Unies demande aux groupes armés de déposer les armes, c'est en fait que d'abord un arrêt de puissance, parce qu'on a des troupes sur le sol congolais, on a des hélicoptères de combat, on a les moyens de pourchasser ce groupe d'armées et les désarmer. On demande les armées, on leur demande, depuis quand le Conseil de sécurité a demandé à ce groupe d'armées de déposer les armes et non pas déposer les armes. Est-ce que vous pensez que c'est pour le bien du Conseil de sécurité ou bien c'est pour le bien des Congolais que ce groupe d'armées sont en train d'entretenir cette insécurité? Pensez-vous qu'aujourd'hui le FDLR, parce que le FDLR fait partie des groupes d'armées, vous pensez que les FDLR vont entendre le cri d'alarme lancé par le Conseil de sécurité de la Nations Unies? En conclusion, je dis que c'est un aveu de puissance du Conseil de sécurité de la Nations Unies, et il faudrait que le Conseil de sécurité de la Nations Unies, qui vient de reconnaître le chef pour qui la monnaie s'est occupée, redéfinisse d'autres stratégies pour voir dans quelle mesure on peut pacifier l'Est du pays. Par exemple, avec plus de 24 000. On est incapable de mettre la main sur le bichet de Lutunda, qui est partenaire entre 300 hommes. On est incapable de mettre la main sur Laurent Kunda. On est incapable de mettre la main sur le collègue du Sota, ainsi de suite. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est un aveu de puissance, il faudrait redéfinir les stratégies.
Oui, on parle de groupes armés, mais il s'agit de groupes armés étrangers et congolais. Et on a même vu dans les déclarations qu'on interdit aussi aux groupes armés qui sont en liaison avec le gouvernement de mener toute autre action. Vous voulez dire quelque chose, Emmanuel?
Et pas nécessaire, quand on parle des groupes armés, on parle aussi, on s'adresse directement au gouvernement qui est le responsable du numéro 1. Alors, il faudrait que le gouvernement prenne des mesures en sorte que qu'on arrête cette situation. Alors, la première mesure que le gouvernement devrait prendre, moi je pense que c'est d'utiliser la force. Parce que on a essayé à plusieurs reprises. On a essayé avec le renvoi au Rwanda, qui a aujourd'hui a signé un acte pour dire qu'il n'y a plus de peine de mort. Donc on suppose que c'est menace facile. Alors si ces gens-là ne rentrent pas, moi je pense que le gouvernement est à mesure, parce que c'est un gouvernement loyal qui a été élu, d'envoyer l'armée pour repousser des forces et les forces négatives. Bon, il y a aussi le problème de gens de Kunda et de Rukunda. Tous ces gens-là, ils doivent rentrer dans les rangs. Parce que s'ils ne rentrent pas dans les rangs, il manque un autre choix, une autre alternative qui est la démobilisation. Et il y a tout un processus qui est lancé là-dessus de la démobilisation, qui rentre dans la vie civile, on va leur donner des moyens et ils doivent déposer les armes. Moi, je pense que c'est la seule solution. Bon, si le gouvernement, je pense pas qu'il y a des groupes armés qui sont derrière le gouvernement, c'est pas une façon de les dire, peut-être les Maï-Maï, ils défendent le territoire, et peut-être contre le plan du gouvernement. Mais à ce moment-là, ils doivent aussi rentrer dans les rangs ou aller à la démobilisation. Et le gouvernement, qui est un gouvernement légal, doit utiliser la force pour agir. Alors, c'est pour cela qu'on parle ici du problème de l'embargo sur les armes. Moi, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui encore, 6 mois après les élections, on doit continuer avec l'embargo. Moi, je ne pense pas.
Emmanuel, vous proposez que le problème soit résolu par la force, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies n'encourage pas une confrontation militaire pour résoudre ce problème. Adrien Vanda, faudrait-il y aller par la force, comme nous le disait tantôt Emmanuel Makila?
Écoute, c'est combien de temps qu'on demande aux groupes armés de déposer les armes sans que ça puisse avoir des effets? Ça fait combien de temps qu'on dit au gouvernement que la solution doit être politique et pas utiliser la force? Mais jusqu'à là où est-ce qu'on en est? On a eu envoyé là-bas, c'était quoi encore, la force européenne, notamment à Litouri, en 2003. C'était pourquoi? C'était pour
parler d'Artemis.
D'Artemis, voilà. C'était pour régler justement ce problème-là. On a utilisé un peu la force, mais après, on a essayé de persuader les gens de déposer des armes. Mais 4 ans après, où est-ce qu'on en est? On a toujours Kundabatware avec son groupe armé, on a toujours des SDLR, etc.
Les Maïmaï, évidemment.
Ah, évidemment, les Maïmaï. Mais dans tout ça, est-ce que l'armée nationale a décidé de faire, comment on dit, une grande offensive? Je crois que non. Jusque-là, c'est de temps en temps, ce sont des escarmouches, ou de temps en temps, il faut régler des problèmes parce que la population se plaint un peu trop, et c'est à ce moment-là qu'on dit non, écoute, que tout le monde dépose des armes, y compris. Malheureusement, les forces armées nationales.
Alors, on le sait, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'encourage pas une confrontation militaire pour résoudre ce problème. Il y a le phare qui a titré, je crois hier, un plan global pour l'Est. La dernière déclaration du Conseil de sécurité révèle un subtil changement de stratégie sur la question sécuritaire en RDC. Sauf-t-il, est-ce que vous pensez qu'il faut un plan entre le gouvernement et la MONUC, un plan global pour l'Est du pays?
C'est la seule solution. Il faudrait que tous les efforts soient conjugués en tant que là déjà, il y a des situations, on a vu, à plaquer par exemple que la MONUC avait pris le devant, le troupe gouvernemental qui était venu de la MONUC, et on a réussi quand même à libérer ça. Il faudrait un plan global, si on a trouvé une solution politique, ce que nous encourage, dans la mesure où les serez d'ici vous. Je ne vois pas, je ne vois rien avoir la capacité de pouvoir mettre ce que vous dites vous. Il faudrait un plan global. On peut faire entre le gouvernement et la MONUC, et on devrait associer certains univers de l'Est pour voir dans quelle mesure on peut trouver une solution pour promis de sécurité qui se pose à l'est du pays. Parce que si le gouvernement, avec son plan, il avait dit avec les combats de Gira récemment, le gouvernement dans les camions, j'ai suivi le sénateur Louis Arubabo dans une édition de dialogue entre Congolais, dire que le camion s'est allé ramasser des maïmaï partout en là, pour les envoyer au combat. Sans moyen. C'est inimaginable dans le pays. Alors il faudrait, comme vous l'avez suggéré, un plan conjoint entre la MONUC et le gouvernement pour voir à quelle mesure on peut trouver une solution à la réforme de l'Est du pays. On devrait aussi associer le gouvernement des pays limitrophes. Pas de l'ensemble de questions que lorsqu'il y a des situations qui sont de résoudre au niveau de l'Est, si on n'a pas accepté le pays, notamment le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, même la Zambie, ces pays gardent. Aujourd'hui, Moutébouch est en vrai, vous voulez que le centre Moutébouch est de la RDC. Il faudrait qu'on puisse mettre en place toutes ces stratégies pour trouver une solution à cette problème.
Voilà, Adrien Vanda, vous écoutez la Sotène qui parle d'intéresser aussi les pays voisins. On sait qu'il y a un pacte sur la sécurité et la stabilité qui a déjà été signé en décembre 2006. Quelle peut être la contribution des voisins de la RDC aujourd'hui?
Je crois que c'est vrai, même si on peut dire aujourd'hui que les voisins de la RDC peuvent contribuer, c'est tout à fait normal, parce que quand ça brûle chez les voisins, vous devez faire attention, sinon vous risquez d'avoir le retour du flamme. Ça serait. Mais il faut que nous puissions d'abord savoir quels sont les véritables problèmes qui se posent chez nous, parce que là on parle aussi d'un plan global pour pouvoir régler ce problème en une fois. Et ce sont des problèmes multifacteurs. Il y a des problèmes qui intéressent le voisin, mais il y a des problèmes qui nous intéressent, nous, directement, y compris, évidemment, la communauté internationale, représentée ici par la MONUC. Donc, c'est un problème qui est multifacette, et que, c'est vrai, on peut intéresser les voisins, mais nous devons d'abord savoir, par rapport à nous, à notre pays, à tous ces multiples acteurs sur ce terrain-là, qui veut quoi, afin qu'on sache comment régler le problème.
Emmanuel Makila, si on doit poursuivre sur cet axe-là, qui veut quoi intéresser les acteurs locaux, la déclaration du Conseil de sécurité aussi parle de la réconciliation, est-ce que finalement l'existence même de ces groupes armés, c'est pas un échec de la réconciliation nationale?
Bon, pas nécessairement, parce que selon plusieurs observateurs, c'est une transposition d'un conflit rwando-rwandais sur le sol de la RDC. Si vous voyez, vous regardez qui constitue les FDLR et de l'autre côté les gens de Kunda, des Rukunda. Et on a même parlait des détenus. J'ai suivi la déclaration de...
Des détenus similaires à l'armée rwandaise.
J'ai suivi la déclaration du ministre des Affaires étrangères rwandaise qui disait que ces tenues étaient achetées dans les marchés internationaux. Et bon, moi, je ne discute pas là-dessus, mais ce sont des indices, hein, que selon certaines opinions, on dit que c'est l'armée rwandaise qui soutient. Selon une certaine opinion aussi, on dit ceci, que le Rwanda n'est pas capable de contribuer à l'arrêt de cette situation. Excusez-moi.
Alors, Adrien Vanda disait tout à l'heure qu'il ne faudrait pas exporter le problème congolais.
Non, justement, moi je veux dire ceci. Parce que nous devons avoir le soutien des pays voisins pour résoudre ce problème. Le problème de l'Est, il faut le résoudre avec les pays voisins. Mais qu'est-ce que le Rwanda gagne dans la résolution de ce problème? Le Rwanda ne gagne rien. Parce que le Rwanda voudra que ce problème-là des FDLR continue à exister afin qu'il puisse toujours rebondir dans sa politique extérieure. Ça, c'est une opinion qui est vraiment soutenue par des diplomates.
On avait trouvé Fabi, mais avant de donner la parole à Fabi, je vois que Adrien Vanda avait une réaction.
Oui, la réaction, c'est justement à propos des FDLR. Comment régler le problème des FDLR? C'est en favorisant à ce qu'il y ait une conciliation chez eux, pour qu'ils rentrent chez eux. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement en place au Rwanda va l'accepter facilement? Parce que pour nous, c'est aussi un début de solution. Les FDLR sont aujourd'hui capables de rentrer chez eux en paix quand il y a une réconciliation chez eux.
Est-ce que la RDC est aussi capable de se débarrasser de ces FDLR?
Écoutez, pour la République démocratique du Congo, on a demandé à ce qu'il y ait un dialogue inter-congolais, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a la paix. Pourquoi on ne va pas demander la même chose aux Rwandais?
Fabi Kwasu, vous avez un peu écouté tous nos confrères ici. Quelle est votre analyse à ce niveau?
Oui, je dois dire que une chose quand même est de demander qu'on dépose les armes, une autre est d'aider à ce désarmement, je veux dire pacifique et volontaire. Mais si on ne crée pas les conditions pour donner une certaine garantie de non-poursuite à ces groupes, par exemple, leur assurer une réinsertion dans des camps plus organisés et plus légaux, ça va être difficile, ce désarmement. Donc ces groupes peut également doit comprendre que le Congo, quand même, au jour d'aujourd'hui, après les élections présidentielles, c'est un pays qui est dirigé, qui a des institutions, et qu'il n'est plus, autorisé. On ne peut pas permettre qu'il y ait de ces groupes-là qui fassent quand même leur propre volonté. Le sujet d'une telle entreprise dépendra aussi de l'application donc, des autorités de la RD Congo à accompagner cette opération. Lesquelles autorités doivent amener quand même les populations à comprendre le bien fondé de cette action-là. Il faut donner des garanties, disais-je, et au nom de la paix sociale surtout et de la coexistence sur une certaine période, je vais dire, mais quand même, c'est vrai, en Afrique, on commet des actes et au nom de la paix, on dit déposer les armes. Il va falloir quand même, si on veut installer, si on veut avoir des sociétés émancipées, des sociétés démocratiques, ouvrir quand même le dossier de l'impunité, faire balayer quand même la maison et rétablir les ordres, je veux dire. Voilà.
Tribune de la presse qui revient sur les faits marquants de la semaine avec les journalistes. Dans ce studio, Emmanuel Makila du journal Révélateur, Adrien Vanda, journaliste à la télé à RTGA, en ligne de Tikapa, Sosten Pierre Kambidi de la radio Zénith et depuis Togo, Fabi Kwasu, correspondant de BBC à Lomé, qui est aussi de la radio Nostalgie. Affaire trafic d'armes et d'or entre les Cafés Bleus et les FDLR au Nord Kivu, Human Rights Watch trouve l'enquête superficielle. Cette ONG internationale a adressé une lettre au chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Marie Guénon, demandant la poursuite des enquêtes. Adia Tikoukou revient sur cette plainte de Human Rights Watch.
Human Rights Watch est déçu des conclusions superficielles du rapport d'enquête. C'est en ces termes que cette ONG de défense des droits de l'homme exprime son insatisfaction. Dans sa lettre au chef des opérations de maintien de paix des Nations Unies, l'ONG reste critique sur l'enquête menée par l'organisation internationale OIOS. Elle déplore, je cite, le manque de transparence, la lenteur et le manque continu de responsabilité dans la réalisation de l'enquête, fin de citation. Et à l'ONG d'ajouter, nous sommes surtout inquiets dit du nombre limité des soldats impliqués dans ce trafic, nous restons convaincus que plusieurs soldats ont été impliqués. Ce n'est pas tout. Human Rights Watch se dit aussi concerné par les déclarations de Jean-Marie Guénaud sur la radio britannique BBC. Selon elle, M. Guénaud a rejeté toute implication des casques bleus dans cette affaire, alors que le rapport de l'OIOF a cité au moins un officier pakistanais dans ce trafic. Tout en reconnaissant le rôle positif de la MONUC en RDC, Human Rights Watch exige des sanctions contre les casques bleus qui auront commis des infractions, ainsi que des enquêtes transparentes et rapides sur les éventuelles infractions commises par ces soldats de la paix.
Interrogé, le porte-parole de la MONUC affirme qu'il reste convaincu que l'enquête a été menée de façon rigoureuse. Pour lui, il faut se contenter de ce rapport. Kemal Saïti, porte-parole de la mission onusienne au Congo, au micro de Adia Chipoukou.
L'enquête qui a été menée pendant plusieurs mois, ça a été un travail qui a été fait de manière très rigoureuse. Et c'est évident qu'il y aura toujours des voix ou des institutions pour s'estimer pas satisfaite par les résultats de cette enquête, à moins qu'elle soit en mesure d'avancer de manière très certaine et prouver qu'elles ont des raisons sérieuses de douter de la crédibilité de cette enquête. Je crois qu'il faudra pour le moment nous contenter de ce qui a été établi, je le dis encore, de manière très rigoureuse.
Alors, en ligne de Tikapa, sur Saint-Pierre Kambili, vous êtes de la radio Zénith. Est-ce que cette information vous a intéressé cette semaine?
Elle nous a intéressé pour plusieurs points. Personnellement, je n'ai pas compris comment est-ce que la MONUC, c'est même pour le juge, est parti. Ce sont les quatre de la MONUC qui sont accusés de ce trafic. De la MONUC, nous avons voulu suivre le porte-parole qui dit l'enquête a été menée de manière rigoureuse. Comment peut-on être en même temps accusé, en même temps juge? Et il fallait intéresser des ONG par exemple. Ce n'est pas l'expertise qui a dénoncé dans les trafics. J'ai déjà suivi tout le monde sur Radio Capine, le directeur d'une radio qui se met à Goma, la Radio Colombe, qui a dit que sa radio était aussi en train de mener une enquête autour du trafic de matières premières du sol congolais, dans le trafic dans lequel les cartes étaient impliquées. Pourquoi on ne peut pas intéresser c'est en prison, donc dans des personnes qui ont dénoncé ce trafic. Donc, ce que la MONUC fait, on est juste parti, on a quitté le casque pakistanais, que pensez-vous que le Pakistan puisse prendre son casque bleu? On ne fera rien de plus que connaît le régime qui a Islamabad, les conditions dans lesquelles les gens vivent là-bas. Vous pensez que ce casque bleu, il va retourner celui pour les envoyer de l'armée? C'est faux. Donc, la MONUC tenait dans la position du juge, c'est parti, la MONUC devait reconnaître ses erreurs et. On dit toujours qu'on veut manquer d'indépendance. C'est que la commission d'enquête à l'état de la police est indépendante. Elle n'est pas indépendante. Il faudrait qu'on mette en place une commission d'enquête qui n'est pas destinée à lier à la police, qui pourrait faire un travail pour nous dire par quelle mesure les casques ont été expliqués. Et que la police prenne des mesures, parce que la vraie casque vient dans ce pays pour que son gouvernement prenne des mesures. Ça ne se fait pas, hein. On ne connaît pas comment ça va être fait, surtout dans des pays comme le Pakistan. C'est grave. Donc la police, là-dessus, doit redéfinir sa position.
Alors, Adrien Vanda, je vous voyais réagir tout à l'heure. Il y a la MONUC elle-même, bon, disons avec sa commission, au niveau des Nations Unies, elle estime que cette commission est indépendante. Human Rights Watch qui trouve que l'enquête est superficielle, votre analyse?
Bon, écoute, pour une fois, les organisations internationales s'affrontent. S'ils s'affrontent, cela voudrait dire que quelque part, les résultats n'ont pas donné satisfaction. Enfin, bon, écoute, nous n'allons pas revenir sur ça. C'est Human Rights Watch et l'organisation interne des Nations Unies pour les vérifications, etc. Mais cela voudrait dire quand même qu'il y a quelque part des petits problèmes. Problèmes au niveau donc des soldats de la paix qui sont venus ici en RDC, pas seulement, mais même ailleurs, on a entendu, il y a au-delà de ça, il y a du trafic, de cette, etc. Donc il y a quand même quelque part un problème, et je crois que quand il y a un problème comme ça, c'est qu'ils ont écouté. Il faut réellement qu'il y ait des sanctions pour que d'autres ne puissent pas tomber sur ce genre de choses. D'autant plus que dans cette affaire des casques bleus, FDLR, trafic, armes contre or, cela vous dit quelque part, il y a un groupe armé qui en demande aujourd'hui de déposer des armes, ils trouvent goût à donner de l'or et encore prépare-tu à avoir des armes et pourquoi pas un peu d'argent, est-ce que vous êtes convaincu que demain ils vont arrêter? Mais non, ils vont trouver que c'est juteux comme trafic et malheureusement ça sert à quoi, ça sert à les soldats de la paix qui sont eux en train de favoriser que des groupes armés qu'on appelle forces négatives puissent continuer à exister. Voilà.
Tandis quoi, vous nous suivez depuis Lomé?
Oui, c'est un véritable scandale. Ça ne fait pas honneur à de telles institutions internationalement connues et respectées, institutions qui se doivent quand même de donner le bon exemple. Quand on sait qu'elles donnent de leçons en matière de crise sur le continent, surtout africain, on se croirait à l'époque quand même de la conférence de Bonn, où le sort de l'Afrique est très entendu, où on décide de partager le continent et maintenant on décide de le tirer tel un gâteau pour sous d'autres prétextes. Je crois que ça ne fait pas sérieux. C'est facile à notre sport hein, de se servir des thèmes comme la paix ou son maintien et en dessous des institutions développent des réseaux illicites pour dépouiller l'Afrique, notamment le Congo, de toutes ses richesses. En même temps, je crois que ce sera se voiler la face. Il faut parler de la responsabilité ou si vous voulez de l'irresponsabilité de vos dirigeants qui sont complices de ces réseaux mafieux. Sinon, comment comprendre et justifier qu'une institution débarque dans notre pays pour un objectif précis, maintenir la paix, et que, bon, ces membres se livrent à de telles pratiques, si quelque part il n'y a pas à laisser aller, ou si les autorités ne leur ont pas donné une carte blanche, puisqu'elles doivent, en fait, peut-être qu'elles. Ces autorités-là ont des intérêts. Malheureusement, ça n'avantage pas le Congo. C'est des intérêts, on va dire, personnels. Donc, moi, à mon niveau, et puis ça devient trop répétitif pour ce qui concerne ces institutions onusiennes. C'est pas la première fois. Vous avez des protégeants marocains à l'UCI en Côte d'Ivoire. J'aimerais que ces genres d'institutions qui se plaisent dans ces scandales, ça devient une véritable contagion. Il va falloir que les autorités de nos pays, que nos chefs d'État prennent leurs responsabilités.
Emmanuel Matila, comment faire? Comment sanctionner?
Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de sanctionner. Mais il y a le premier problème, d'abord, c'est quoi? C'est la passivité que j'ai découverte au niveau de l'ONU. Il y a à peu près 10 jours, lors d'une conférence de presse de la MONU qui est ici sur place, j'ai vu le général Babacar Gaye qui était en train de défendre d'une certaine manière le général du contingent indien. Hein, c'est non, qui était l'auteur, disons, le brave de non. Oui, il était le brave dans un combat à l'Est, et c'est grâce à lui qu'on a repris ça, et je crois, et ainsi de suite. Alors, c'était une façon de dire que non, c'était un brave, il ne faut pas le mêler dans cette histoire, ainsi de suite. Et c'était au sujet du trafic de l'or avec des informations avec les FDLR. Alors, j'ai encore suivi Jean-Marie Guéhenno, qui disait la même chose à BBC, et c'est à partir de ce qu'il a dit, c'était le 13 juillet, je pense, à partir de ce qu'il a dit que Human Rights Watch est monté au créneau. Et le troisième point, c'est le Pakistan, qui est le plus gros fournisseur des militaires, des forces de la paix.
Et qui sont par ailleurs aussi très appréciés. Hein.
Oh oui, ça c'est à la manière de les dire. Alors, c'est un ensemble d'éléments qui sont en quelque sorte comme des refuges pour la MONUC pour ne pas les attaquer. Parce qu'aujourd'hui, on dit, non, si on menace le Pakistan à travers son contingent, le Pakistan va commencer à dire que, bon, prochainement, je n'en verrai plus, peut-être, je ne pense pas que c'est facile à trouver des militaires pour envoyer dans une force internationale. On voit le cas du Darfour, on n'en trouve pas. Et donc, il y a une certaine protection pour l'honneur de l'ONU, hein, qu'on est en train de faire voir, faire remarquer, et les observateurs disent que c'est dans ce sens-là. On a vu les mêmes, je suis en train de faire une petite autocritique de l'ONU, avec en Irak, il y avait un même problème, le problème de pétrole contre nourriture. Il y avait aussi des scandales. C'était un ensemble des scandales.
On ne peut pas dire que c'est un cas particulier pour la RDT.
Non, c'est pas un cas particulier. C'est, bon, évidemment, c'est Kemasai qui l'avait dit. Là où il y a des hommes, il y a des problèmes. C'est pas ces hommes-là n'ont pas les sangs de l'ONU. Ce sont des hommes qui viennent des territoires d'horizon.
Dans ses propres termes, partout, il y a des salauds. Et
il y a, exactement. Il a utilisé des termes. Donc, il a compris qu'il y avait des salauds. C'est le problème des hommes. Alors, c'est pour cette raison que moi, je préconise qu'il y ait des sanctions. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, il y aura contagion. Et dans d'autres livres, par exemple, au Darfour, où il y aura bientôt l'ONU, et la force de l'ONU, il risque d'avoir des problèmes parce qu'il y aura peut-être plus de 27 000 militaires. Et plus il y a, le nombre augmente, les scandales aussi arrivent. Il faut maintenant même sanctionner.
Tribune de la presse, retour sur les sujets qui ont fait l'actualité de la semaine. Dans ce studio, Emmanuel Makila du journal Le Révélateur, Adrien Vanda, journaliste à la télé RTGA, en ligne de Kikapa, Saint-Pierre Cambidi de la radio Zenith, et depuis le Togo, Fabi Kwasi, correspondante de BBC à Lomé. Construction anarchique ou destruction illégale? La première audience a eu lieu mercredi dernier. Je vous rappelle, ce procès oppose les personnes dont les maisons ont été démolies sur le site Tembe na Tembe à Kinshasa et le gouverneur de la ville, André Kimbuta. Innocent Olenga a suivi pour nous cette première audience.
L'audience de ce jour statue sur les mesures conservatoires sur les terrains intérêts, mesures sollicitées par les avocats de la partie civile. L'un de ces avocats, Maître Nsibu Matondo, explique leur démarche.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse autre chose à cet endroit-là en attendant que la paix soit vidée. Parce que lorsqu'on détruit, parfois on apprend qu'on veut vendre à une tierce personne, parfois on apprend qu'on veut faire d'autres constructions. Pendant ce temps, aucune activité ne peut être menée, aucune vente, rien ne peut être fait au niveau de cette erreur.
Ces avocats de la partie civile ont demandé aux juges les rejets de tous les moyens exceptionnels qui les réparent. Les avocats de la défense, ces derniers sollicitaient l'annulation de l'action menée contre Mefi Kimbuta pour mauvaise orientation de la requête, signalant que les personnes dans leur maison ont été démolies sur le site Téménatélé, ont introduit une assignation en dommages d'intérêt contre l'hôtel de ville et le gouverneur André Kimbuta en premier lieu et la République démocratique du Congo en second lieu. Après les interventions des uns et des autres, le tribunal a pris l'affaire en délibéré, c'est après que les ministères publics lui aient demandé de tenir compte des mesures conservatoires sollicitées par la partie civile. Le tribunal a donc 15 jours pour se prononcer.
Fabi Kwasi, on sait qu'au Togo, l'actualité pour le moment, ce sont les élections, mais les constructions anarchiques ou les destructions illégales, vous les connaissez aussi?
Bien évidemment, on pense que c'est un problème qui est presque similaire comme à tous les pays d'Afrique, hein, au Togo également. Je crois qu'il y a des constructions anarchiques et nous avons un comité des architectes qui s'est réveillé pour remettre, je vais dire, de l'ordre dans la maison. On va voir ce que ça va donner dans quelques années, mais pour le moment, je crois savoir qu'il n'y a pas encore de destruction pour ces constructions anarchiques-là.
Alors cette semaine, le journal Observateur a titré « Les bulldozers de Kimbuta rasent les sites de l'hôpital de Kintambo », donc c'est en machette. Est-ce que vous pensez que, Adrien Vanda, vous pensez que le gouverneur pourra continuer avec l'ouverture de ce procès?
Bon, écoute, voilà encore, c'est le paradoxe que nous avons dans notre pays, c'est justement quand on est frappé par la loi, c'est à ce moment-là qu'on commence à crier haut et fort. En réalité, quand vous essayez de regarder tous ces sites qui sont régulièrement rasés, où les gens reviennent, etc., etc., des années durant, on est en train de dire que non, sur ces sites-là, il ne faut pas construire, il ne faut pas parce que ça appartient à un tel, il ne faut pas parce que. Mais dans l'entretemps, malheureusement, on trouve des constructions qui s'érigent, et souvent, ce sont des militaires du régime à ce moment-là qui sont en train d'en profiter, etc., etc.
Et c'est pas seulement qui ne sait pas, hein?
Non. Oui, j'ai dit que ce sont des paradoxes. sur New York. Et quand vous essayez de regarder quelque part, vous allez trouver que ces gens ont des documents en bonne et due forme, des documents qu'ils ont attrapés ou légitimement dans les services de l'État. Donc, vous voyez, il y a quand même des paradoxes comme ça, et que je crois que non seulement il faille peut-être raser, parce que c'est ça l'opération la plus visible qu'on est en train de voir, mais c'est des chercheurs, des filières, hein, parce que ce sont des filières au niveau de cadavres, etc. Des gens qui font de coûts terribles pour que des gens puissent avoir des documents pour dire que j'ai payé, c'est un tel, etc. Et ils puissent avec d'autres, ils risquent de maison. Donc, ce n'est pas seulement la face immergée de l'iceberg qu'il faut aujourd'hui combattre, c'est-à-dire en rasant les différents sites, mais aussi en regardant dans les différents services de l'État, affaires foncières, cadastres, etc., où il y a des gens qui ont des filières pour pouvoir vendre, revendre des maisons, des parcelles, etc.
Et vous avez suivi l'un des avocats avec Innocent Olenga qui dit, mais il ne faudrait pas qu'on construise encore sur ces sites attendant jusqu'à la fin du procès.
Bon, écoute, là, je crois que puisqu'il défend les victimes, c'est normal qu'ils puissent prendre position, parce qu'on ne sait jamais quand c'est un procès, il se pourrait que demain on dise non, non, ce sont les victimes qui avaient raison et qu'il faut leur donner le site, etc. En tout cas, si vous avez attribué à quelqu'un d'autre, ça va encore chercher d'autres procès. Mais seulement, malheureusement, si je peux le dire ainsi, quand on prend le cas de TBATB, hier ou avant-hier, on a vu des ministres débarquer. Pourquoi ? Parce que le ministère de la Culture a trouvé que les terrains étaient propices pour qu'on puisse construire un grand palais des arts, hein, je crois. Donc voilà. Est-ce que, bon, voilà, encore un autre problème.
Sosten Pierre Kambili, vous êtes à Kananga. Est-ce que le même problème existe ?
Je sais que c'est pas Georges, le même problème existe, hein, mais je veux que je dis que c'est pas que l'Union républicaine dans la Grande République.
Tout à fait, donc on peut faire aussi mental.
Oui, bien sûr, on peut faire aussi mental. Le problème existe, et il est, on voit un peu partout, il y a des maisons qui montent, ce sont les maisons des militaires, tous les gens qui savent qu'il n'y a pas. Même là où il y a des lignes à haute tension, en dehors de la semaine, des gens, c'est pas possible de diriger des maisons, quand vous vérifiez, ce sont des députés qui est là, qui cherchent, qui s'est tapé, c'est le fait de faire, parce qu'il a réussi à placer un conservateur de l'équipe des immobiliers ou un chef du cadastre dans un bureau, en compensation, donc, qui veut être un même langue, il ne peut pas construire. L'étape là, il est de la régie des eaux. Dessus, il y a des maisons qui sont érigées à qui s'attendent, c'est un peu partout. Mais au-delà de toutes ces considérations, je pense que l'action du gouverneur Kimbita, l'action des autorités est encouragée dans la mesure où il ne faut pas quand même qu'on arrive à refonder notre pays. C'est vrai que ça fait mal pour des gens qui ont accédé de la fin de terre, qui cherchaient à diriger des villages, qui cherchaient à diriger des villes. C'est vrai que ça fait mal. Est-ce qu'au nom de ces petits mal, fondatrices qu'on est pour la République, aller à voler de cette façon-là? Non, moi je pense que la justice devrait aussi accompagner la refondation de cet État. Éviter, c'est vrai, les gens maintenant vont s'affronter, il faudrait qu'il y ait une action d'envergure parce que lorsqu'on veut trouver des solutions à des problèmes graves qui se trouvent dans un pays, il y a des mesures qui sont généralement depuis la mer, mais il faut prendre ces mesures. Donc l'action est encouragée. Il faudrait éviter que Gabriel évoque tout à l'heure que le ministre de banque puisse dire non, on va le dire ça à parler du ministère, et à parler du ministère à côté de l'annexe, on va donner le document, le certificat d'enregistrement, non, ça appartient au ministre ou à être du ministre. Là, c'est pas sérieux. Si on a trouvé que les sites, on ne peut pas diriger les maisons, les sites restent tels qu'ils sont. Moi, je mon niveau, c'est de la TNB. C'est un scandale en plein capital. Ce sont des actions de refondation de l'État. La crise est en mer, mais je pense qu'il faudrait encore beaucoup de la vallée.
Oui, mais les deux parties sont aujourd'hui devant le tribunal. Entre construction anarchique et destruction illégale, j'ai vu d'ailleurs la tempête des tropiques, je crois, dans une caricature cette semaine, qui a dit « c'est la loi du plus fort qui va régner ». C'est votre avis, Emmanuel Makila?
Non, pas du tout, parce que franchement, nous devons regarder devant nous, c'est... Le pays est en train d'aller de l'avant. Il y a certaines mesures, hein, qu'on appelle des mesures impopulaires. Il faut franchement les prendre pour notre pays. Si on ne les prend pas, on va toujours reculer. c'est vraiment beaucoup de mal et beaucoup de souffrance pour les gens qui vont perdre, qui vont perdre et qui continueront à perdre des maisons qu'on va détruire, ainsi de suite. Mais franchement, il faut regarder devant nous. Parce que si on ne le fait pas, l'impunité va continuer. Et comme a dit Adrien, il faut voir les filières aussi. Essayer de court-circuiter toutes ces filières qui sont en train de décerner des certificats à des personnes après les avoir corrompus. Il y a vraiment toute une corruption manifeste qui se fait là.
Vous avez parlé des mesures impopulaires, mais ce ne sont pas des mesures qui risquent de toucher seulement les pauvres.
Non, je ne pense pas. Vous voyez Tembe appartenir à un pauvre, je ne pense pas. Vous avez entendu parler de quelqu'un qui a débloqué environ 200 000 $ pour construire une maison qui n'est pas encore achevée. Vous vous rendez compte? Donc ça signifie que ce n'est pas pour les pauvres. Un pauvre ne peut pas chacun un terrain Tembe la Tembe. Moi, je vous l'assure. Et derrière le palais du peuple, au site de l'Ifasik, vous avez remarqué.
Les caterpillars ne sont pas encore passés par là.
Moi, je pense que si on a commencé à Tembe la Tembe, on passera par là. Ils peuvent passer par là. Mais le drame, c'est la souffrance des gens qui sont là, mais qui n'ont pas beaucoup réfléchi à plusieurs reprises. Parce que quand on soupçonne un lieu, que ce site appartient à l'État et ce site n'est pas l'autre. Ici, dès qu'il y a des doutes, il faut s'abstenir. Et ce que nous avons remarqué dans notre pays, c'est que les gens disent non, construisons vite des grands édifices, comme ça on ne va pas détruire. Mais aujourd'hui, on a vu, on a détruit. Le dernier problème que je vais soulever ici, c'est nous-mêmes, nous les Congolais, nous sommes des téméraires. Nous sommes vraiment des téméraires. Un site qui se trouve vraiment dans un endroit comme celui-là, il faut hésiter un peu.
À un mètre de rail.
À un mètre de rail,
à voir. Juste à côté de rivière, du rivière,
qu'on voit, à côté de l'aérodrome, à Andil, on a vu, dans un camp militaire, vous vous rendez compte, au camp Luano et au camp Badar. Vous vous rendez compte que nous sommes vraiment des téméraires, mais il faut chercher vraiment à sanctionner la corruption.
Fabi, est-ce qu'il est facile, par exemple, à l'État de dédommager les victimes si jamais la justice arrivait à prouver que l'État avait tort?
Je ne suis pas sûr de ça, mais j'ajouterai tout simplement que le vin est tiré. Il faut le boire. C'est l'occasion de reprendre toute l'éducation de nos populations. Il faut leur apprendre que pour acquérir un terrain quelque part, il y a des démarches administratives à effectuer. Et si on ne le fait pas, on est sous le coup de la loi. Maintenant, l'affaire est déjà au niveau des juridictions, j'imagine, compétentes du pays. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il faut veiller à ce que le droit soit dit. C'est bien facile de détruire des constructions, mais si je me mets dans la peau de ces habitants-là, de ceux qui ont construit, mais c'est quand même, construire une maison, c'est pas facile, ou construire quelque chose, c'est pas facile, il va falloir quand même penser à ces populations-là, où vont-elles le loger. Donc, c'est tous ces paramètres qu'il faut voir. Maintenant, j'imagine que la justice va trancher pour le droit, et s'il s'avérait, comme vous dites, que l'État est mis en cause, c'est un devoir, parce que l'État est dommage, cette situation-là. Mais encore une fois, sous d'autres cieux, on a pensé à tout le plan du pays ou de la ville ou des localités ou des provinces. Et ça repose le problème même du fonctionnement de nos États, des ministères de la ville ou des villes que nous avons dans nos pays. Donc, c'est ces paramètres-là qu'il faut revoir. Ils ont fait une erreur, ces populations-là. Il faut reprendre la balle au bon moment et mettre tout le monde dans les rangs pour une construction, je veux dire, c'est quand même esthétique de nos pays. Il va falloir commencer quelque part, ça va faire mal, comme disait l'autre collègue tantôt, mais il faut quand même avoir cette pilule-là si on veut laisser un héritage à notre progéniture, aux générations à venir.
Voilà, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, il nous reste encore 30 secondes. Je sais qu'avec les trois amis, c'est la dernière tribune, mais peut-être pour vous laisser la parole, Adrien Vanda. C'est la question qui reste à poser. La justice sera-t-elle faite pour les pauvres?
Est-ce que nous pouvons vraiment aujourd'hui espérer que la justice puisse marcher à une seule vitesse dans notre pays? Les cas sont légion, malheureusement. Espérons que demain, nous aurons vraiment une justice avant qu'on puisse dire pauvre ou riche, la loi
qui est la même.
Adrien Vanda, journaliste à la télé à RTGA. On a eu aussi Emmanuel Makila, rédacteur en chef du journal Révélateur. Merci beaucoup à Sosten Pierre Cambidi de la radio Zénith, dont vous étiez avec nous durant ces 4 semaines. Merci beaucoup. Fabien, nous vous retiendrons dans la tribune prochainement. Merci à tous d'avoir été avec nous. Le programme sur Radio Capi continue. Bon week-end à tous et à la prochaine. Thank you.